Mais on entre tout de suite dans la séquence de la journée de la radio consacrée à la campagne présidentielle avec Tous Politiques. C'est à toi, Mathias.
Il est 20h, Soffresse au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9. François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Cinquième République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous écoutez en Cantor ou chez vous. Nous sommes en direct pour une demi-heure depuis le Théâtre Cantor pour, dans le cadre de cette magnifique journée de la radio 2017. Comme toutes les deux semaines, toute l'équipe de Tous Politiques viendra décortiquer l'actualité de cette campagne présidentielle et vous proposer ses chroniques et parfois ses billets d'humeur, n'est-ce pas Rémi ?
Ah, toujours.
Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre, de Maëlys et de Rémi. Bonjour à vous trois.
Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Bonjour à vous.
Et tout de suite, sans plus attendre, je me tourne vers Pierre pour commencer cette demi-heure de chronique dans Tous Politiques. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathias. Aujourd'hui, je vais vous parler des scrutins.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Plus que 10 jours, et enfin on pourra se calfeutrer derrière des rideaux pour glisser lentement notre bulletin dans l'urne large et accueillante qui avalera entièrement l'enveloppe qu'on lui donnera. Après des préliminaires erratiques à mi-chemin entre un ado découvrant la forme qu'a un vrai vagin et une orgie échangiste parfois BDSM souvent, je ne sais pas vous, mais moi cette élection me fait l'effet d'un mauvais porno. Je ne sais plus sur quoi me concentrer, je commence à me poser de sérieuses questions concernant l'utilité de regarder ça, mais aussi j'ai de plus en plus de doutes concernant la catégorisation comme véritable acte sexuel, la position qu'ils prennent. Et surtout, j'ai de plus en plus peur de me retrouver à jouir sur le gros plan du visage de l'acteur bien bourru. Alors aujourd'hui, je pensais me pencher sur une question assez importante quand on y pense bien. Comment qu'on fait pour élire les gens sur qui on va cracher ? Parce que si Hollande a recueilli 51,64% des votes exprimés, soit 18 millions de personnes, il a suffi de quelques mois pour qu'on demande sa démission. Alors, soit tout le monde a voté pour lui juste parce qu'il détestait tous Sarkozy, mais en quel cas, comment Sarkozy a pu recueillir 48,36% des suffrages, soit Hollande nous a totalement menti et du jour au lendemain a fait tout l'inverse de son programme, soit juste, en fait, on est une belle bande de débiles qui ne sait jamais ce qu'elle veut. Alors, avant de nous jeter contre l'obscurantisme citoyen et la marche inversée vers la démocratie, je pense qu'il faut peut-être se demander pourquoi on avait quasiment 20% d'abstention et surtout 2 millions de votes blancs ou nuls. Avec un peu de maths, hop hop, on se retrouve avec un président élu par moins de 50% du corps électoral qui ne représente même pas toute la population. Enfin bref, je ne sais pas vous, mais moi je me pose quelques questions face à ces chiffres. Après, je me dis qu'il y a un truc, c'est qu'en France, on ne reconnaît pas le vote blanc. Pour nous, un vote blanc, c'est un vote nul, qui ne compte pas, comme si on avait gribouillé sur notre bulletin une bite avec des lunettes qui dit « moi, président de la République » ou un WC bling bling qui fait 1m50. Ce qui est faux, quand on vote blanc, c'est qu'on vote blanc. Et je ne parle pas des suprémacistes qui votent Le Pen, mais bel et bien de ceux qui glissent un bulletin vide. Alors, plutôt que de voir un bulletin vide comme une capote vide, youpi, c'était cool, je me suis amusé sur le moment, mais j'ai pas vraiment pu arriver à ma fin, on devrait plutôt considérer que c'est un vrai vote, je pense. Après, bien sûr, je veux pas dire, allez hop, moi je vote blanc parce que je veux un pays autogéré sans président. Quoique, c'est une question qui se pose après tout. Mais là n'est pas la question. Le principe du vote blanc, c'est juste de dire, oh bah, vous savez, j'ai bien suivi ce qui se passe, et je peux vous dire que bah personne ne me plaît, quoi, aucun candidat ne me convient. Ça nous aidera à sortir de cette monstruosité qu'est la campagne 2017, avec une multipolarisation tellement forte que ça en devient franchement n'importe quoi. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais espérons qu'on n'en arrive pas au niveau du système américain. Vous savez, ce système tant décrié par Trump qui a fini élu quand même avec 3 millions de votes de moins que son opposante. Cherchez la démocratie là-dedans. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans ce système de grands électeurs. Mais ce n'est pas le seul système au monde, voire c'est un système assez typique aux États-Unis. On pourrait s'inspirer de tellement d'autres modes de scrutin. tant qu'on évite peut-être le système « first past the post », comme c'est le cas pour les législatives britanniques et la présidentielle islandaise. Je m'explique, le principe est on ne peut plus simple. Vous faites un scrutin à un tour, et celui qui récolte le plus de voix gagne. Point final. Vous imaginez si jamais on faisait ça en France pour cette présidentielle ? Ce serait la crise cardiaque à chaque nouveau sondage. Sinon, il y a aussi le système allemand avec une élection à deux votes, c'est-à-dire que chaque électeur vote d'abord pour un candidat dans sa circonscription, puis pour un parti politique qui serait parti par liste environ la moitié des sièges restants au Bundestag. Mais je vous vois venir à me faire remarquer la remarque, tout simplement, qu'en Allemagne, comme au Royaume-Uni, c'est un système parlementaire et que ça ne marcherait donc jamais en France. En effet, oui, certes. Après, je voulais surtout montrer qu'il existe plein de modes de scrutin différents. On pourrait aussi faire un vote par classement. Vous prenez les 11 candidats et vous les triez. Tout le monde fait ça, et après, on fait une moyenne très précise, et hop, le plus populaire l'emporte. J'ai découvert sur Facebook, d'ailleurs, un site qui proposait de faire ça avec les votes des internautes. Et malgré le résultat obtenu, Mélenchon bien sûr, j'avoue que ça peut être plutôt pas mal et plus proche des Français. Parce qu'en vrai, le problème fondamental qu'on a, c'est que notre système n'élit pas le plus populaire. On vote plus souvent pour faire barrage que par conviction, parce qu'on a pris l'habitude de voir nos convictions piétiner, quoi qu'il arrive de toute manière. Alors moi, je vous propose une vraie alternative. Le scrutin à la lemoelle. C'est vraiment tout simple. Le corps électoral est composé d'une seule personne, et dans ce cas, moi. Comme ça, on est sûr qu'il y a toujours 100% de participation, hein, que le vainqueur a recueilli non pas une majorité floue, mais un joli 100% des suffrages exprimés, et puis surtout, tant qu'à avoir nos convictions piétinées, je préfère encore que ce soit moi qui choisisse, et moi tout seul, par qui on va se faire mettre pendant les 5 prochaines années.
Merci Pierre pour ce bel exemple d'autocratie, d'autocratie démocratique, évidemment.
La Corée du Nord, c'est dans une heure, normalement.
Ça m'a permis d'être élu président de l'atelier d'improvisation, hein.
Ah oui, mais on sait très bien que tout système associatif est extrêmement démocratique. Transistor en est la preuve.
N'est-ce pas, cher président ?
Bien sûr. Eh bien, puisqu'on vient de parler de systèmes électoraux et de, on peut dire, sociologie des votes, désolé pour cette transition un peu mal formulée, mais nous passons tout de suite à notre sociologue préféré ici à Transistor, j'ai nommé Maëlys, qui continue son analyse sociologique de la campagne présidentielle. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler sociologie des sondages.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors bonjour Mathias, Pierre et Rémi. J'ai décidé aujourd'hui de consacrer ma chronique à un sujet un peu marronnier en ces temps de campagne présidentielle, mais en même temps c'est un incontournable. Et je fais aussi ça pour toi Mathias, puisque je sais que tu ne dors plus depuis 3 mois en te demandant si tu dois finalement donner ou pas ton vote de cœur à Jean Lassalle, malgré ses 1% d'intention de vote.
Bref. Oui, Jean Lassalle a tous mes suffrages.
Bref, j'ai nommé les sondages. On entend tout et son contraire sur les sondages c'est bien, les sondages c'est mal, bref, on a à la fois un débat passionné qui charrie des positions idéologiques assez tranchées, mais qui interpelle aussi les sciences sociales, et plus particulièrement la sociologie politique, qui s'intéresse aux sondages depuis à peu près les années 30. Et il faut bien avouer que même en sociologie politique, les sondages restent un peu un thème polémique, comme nous allons le voir. Bon, la première question qui vient à l'esprit quand on s'intéresse aux sondages, c'est la question de leurs effets. Influence-t-il ou non les intentions de vote, et si oui, comment ? Alors, est-ce que vous connaissez les deux fameux effets supposés et contradictoires qui ont été théorisés par la science politique à propos des sondages ?
Le sondage autoréalisateur ?
Non, je parlais plus de l'effet underdog et l'effet bandwagon.
Évidemment.
En effet.
Oui, bien sûr.
Mais moi, je peux pas savoir.
Désolée. Donc, on a d'une part ce qu'on appelle l'effet underdog. Donc, les électeurs vont se mobiliser pour le perdant parce qu'il est en traîne dans les sondages. Et donc, ils vont être plus déterminés à se déplacer au bureau de vote le jour J et donc infléchir les résultats du sondage et faire remonter le perdant. L'autre fameux effet, c'est l'effet bandwagon. Donc, on se mobilise pour le candidat qui caracole en tête dans les sondages. On saute sur l'opportunité et on suit la foule qui s'enthousiasme.
Donc, en gros, Hamon et Macron, quoi.
Un peu, ouais, voilà. Mais ça veut dire que les électeurs de Hamon vont aller voter pour Hamon, voilà, et les électeurs de Macron vont voter pour Macron. Donc on peut aussi...
C'est ce qui est défini, d'ailleurs.
On peut aussi évoquer d'autres effets un peu plus indirects et pas vraiment théorisés par la sociologie politique. Il y a l'effet humble the winner, donc humilier le gagnant, qui désigne la démobilisation des troupes d'un candidat en tête des intentions de vote, ou l'effet au contraire de Snap the Loser, snobé le perdant, qui désigne la démobilisation des troupes du perdant dans les sondages. Bref, vous comprenez qu'on a plein d'effets très contradictoires qui prêtent aux sondages toutes les vertus et leurs contraires en termes d'influence, et au final, même la science politique est incapable de dire lequel des deux l'emporte ou va l'emporter, parce que c'est absolument pas probant dans les faits. Pour autant, les sondages ne sont pas neutres et ils ont certainement un effet performatif. Donc la preuve, est-ce que vous ajustez votre vote en fonction des sondages et est-ce que vous y prêtez attention ?
Moi, non. Enfin, c'est rigolo de suivre les sondages.
Oui, c'est intéressant de regarder les courbes. Après, il y a toujours ce phénomène assez étrange où au moment où on se dit qu'on va voter pour un candidat, bizarrement, en fait, il se met à remonter comme si on n'était pas tout seul à prendre cette décision-là.
Voilà, il y a des effets d'interdépendance, en fait. Les sondages créent ça, en fait, qu'on n'aurait pas si on n'avait pas les...
Tu présumes un peu vite qu'on vote, Maëlys.
Voilà, donc en fait, ça, c'était la première question que je voulais aborder avec les sondages. Et la deuxième question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que les sondages sont fiables ? Donc le gage de scientificité, c'est un peu l'argument phare des sondages, et ça provient en grande partie de la manière dont ils se sont institutionnalisés aux États-Unis et puis plus tardivement en France. Alors la petite question de culture générale, mais est-ce que vous savez comment vos grands-parents appelaient les sondages dans les années 50-60 ? Un autre terme, un synonyme.
Je vous pose une colle, Maëlys.
Je vous pose une colle, mais on appelait ça les Gallup, en fait.
Les Gallup.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Donc c'était l'abréviation de Gallup Polls, donc du nom de George Gallup, qui a fondé un fameux institut de sondage à son nom, et qui a été le pionnier des sondages dans les années 30 et 40 aux États-Unis. Donc qui était George Gallup ? Donc alors, au début des années 30, en fait, après une thèse dans la science marketing publicitaire, George Gallup quitte l'université, parce qu'à l'époque, le marketing aux États-Unis est enseigné à l'université, pour fonder un institut de sondage, et il va largement miser en fait sur son image de scientifique pour faire du commerce. Il va un peu révolutionner les sondages, en se détachant de ce qui était considéré en fait à l'époque comme la bonne pratique statistique. Donc en fait, à l'époque, le consensus qui existait, c'était chez les statisticiens, en fait, c'était le tirage aléatoire. On tire un échantillon au hasard dans une population donnée. Donc lui, ce qu'il implémente, c'est la méthode des quotas. On construit l'échantillon en fonction des quotas représentatifs de la population d'ensemble, ce qui est à la fois plus économique aussi et ce qui permet de capter au maximum les caractéristiques de la population. Donc maintenant, c'est fortement utilisé et c'est le fameux en fait, échantillon représentatif que vous voyez sur toutes les enquêtes statistiques. Donc pour la petite histoire, la date clé du triomphe de Gallup, c'est 1936 et les élections présidentielles américaines. Donc il y a le journal Literary Digest qui annonce en fait la victoire républicaine de Lyndon contre Roosevelt avec ce qu'on appelle à l'époque un vote de paille. Donc un vote de paille, c'est une enquête en fait d'intention réalisée par les journaux à l'égard de leurs lecteurs. Donc c'est un sport qui est très très prisé par les journaux de l'époque et le Literary Digest est considéré à l'époque comme étant très fiable là-dessus. Donc ce journal va s'appuyer sur 2 millions de questionnaires et il va donner en fait une victoire à plus de 50% du candidat républicain. Gallup, lui, avec seulement 100 000 individus, va annoncer le contraire. Donc il est un peu tourné en ridicule à ce moment-là, mais c'est lui qui va avoir la bonne prédiction. Et le Literary Digest va être publiquement décrédibilisé et c'est en fait à partir de ce moment-là que le sondage va être synonyme de scientificité. Donc ce fait va avoir valeur de démonstration publique et cela va marquer l'avènement des sondages dans la vie démocratique qui vont très souvent se tromper dans les élections américaines et françaises par la suite, mais bizarrement on oublie un peu plus facilement les erreurs des sondages. Donc par exemple en 48 les sondages n'avaient pas du tout prédit la victoire de Truman alors que c'est lui qui l'emporte. En 2002, il n'avait pas prédit l'éviction de Jospin. Et enfin, en 2016, Donald Trump n'était absolument pas attendu à la présidence. Bon, après, on trouvera toujours que tel sondage parmi 100 000 autres, 3 jours avant, les élections avaient prédit le résultat. Mais le fait est que les sondages peuvent se tromper significativement. Et même si c'est finalement peu probable que Jean Lassalle pèse de 1% à plus de 20% et soit qualifié au second tour. Ne pleure pas, Mathias.
Je saurais sécher mes larmes.
Et pour conclure, la troisième et dernière question en fait, liée au sondage que je souhaiterais aborder dans cette chronique, c'est pour ou contre les sondages. Donc alors je vais lister et synthétiser en fait un peu les pour et les contre soulevés par les travaux de sociologie politique et qui ne sont pas dénués en fait de forts présupposés idéologiques. Donc commençons par les pour. Donc premier argument pour, les sondages permettent une démocratie en direct et c'est la majorité qui s'exprime contre, je cite, les faux prophètes de l'opinion. Ça c'est un argument exposé par Gallup. Deuxième argument, les sondages donnent davantage d'informations aux électeurs qui leur permettent en amont en fait, d'évaluer les chances des candidats et de voter en connaissance de cause, ou bien de donner leur avis avant qu'ils ne deviennent candidats, ce qui leur permet aussi de peser dans le jeu politique et l'offre politique. Troisième argument, les sondages permettent de faire connaître la réaction des citoyens à une politique de manière directe. Et quatrième argument, en fait, les sondages amènent à une métamorphose de l'opinion publique en abaissant les coûts d'expression des individus qui répondent simplement à un coup de téléphone et en fait, dans cela, les sondages conduisent à une participation politique minimale des citoyens. Donc je ne sais pas si, si ça vous parle, ces arguments pour ou quoi. Et donc maintenant, je vais vous exposer les arguments contre les sondages. Premier argument, les sondages ne feraient intervenir que des gens peu mobilisés et ils délégitiment en fait les manifestations, grèves et syndicats, bref, les franges actives et bruyantes en fait, qui se mobilisent pour les décisions politiques. Voire même, en fait, ils les réduisent au silence, puisque on a l'impression quand on a l'impression d'être minoritaire, on va avoir tendance à se censurer. Et bref, au nom des majorités silencieuses, en fait, ils vont devenir un instrument de domination. Deuxième argument, les sondages délégitiment les corps intermédiaires et brisent le processus de délégation, ce qui livre en fait les dominés qui vont être désarmés et vulnérables en fait aux manipulations des dominants. Troisième argument, à cause d'eux, en fait, la campagne présidentielle s'apparente désormais à une compétition quasi sportive orchestrée par des spécialistes de communication politique. Pire encore, les sondages préélectoraux auraient un effet performatif et décideraient de l'offre politique. Donc on se souvient par exemple de l'investiture de Ségolène Royal en 2007, suite à des sondages donnés très favorables qui ont conduit tout le PS à se mobiliser derrière elle. Donc ce qui fait en fait que certains demandent désormais d'interdire les sondages longtemps avant l'élection. Bref, c'était une petite synthèse qui vous aura peut-être un peu éclairé à l'égard des sondages, même si la controverse est plus que jamais d'actualité. Alors je ne sais pas ce que vous pensez des sondages maintenant.
Bah, par définition, un sondage c'est quand même à double tranchant, dans le sens où ça a l'apparence d'une plus grande transparence, où on considère qu'on dit, enfin, on donne accès à la société à ce qu'elle est, finalement, enfin, on fait croire à la société ce qu'elle est. Et en même temps, ça aussi, c'est un effet prédicatif où on considère qu'on dit à la société ce qu'elle est et donc ce qu'elle doit être. Une sorte de cercle vicieux qui s'entraîne.
Oui, un peu.
Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que les sondages, c'est un peu la merde ultime, mais on ne va pas tuer tous les sondeurs. Enfin, je veux dire, on ne va pas empêcher les sondages d'exister. On est bien obligé de vivre avec.
Après, oui, on parle beaucoup des sondages électoraux. Après, il y a énormément de sondages d'opinion qui sont faits avec sans doute moins de marge d'erreur qu'avec des sondages très ciblés que sont les élections
présidentielles. Après, moi, ce que je trouve, on critique énormément le vote utile, etc., mais je trouve ça quand même intéressant d'avoir une espèce de mesure, de savoir à peu près ce que s'apprêtent à voter les gens autour de nous, en fait, pour pouvoir aussi ajuster son vote en fonction. Et c'est un peu l'individu tactique et calculateur qui parle. Je me fais encore l'avocate des économistes, mais...
Pourrait juste savoir ce que notre entourage va voter. On n'a pas besoin de savoir ce que Duduche du fin fond de la Creuse va voter et ce que Machine en plein milieu de Paris va voter aussi. Donc les sondages, ça nous sépare de justement tout ce corps électoral alors qu'on a des gens qui nous entourent et c'est plutôt eux qui vont influencer notre vote plutôt que des gens totalement inconnus.
Mais de toute façon, un sondage n'a jamais la prétention de donner une estimation individuelle. Ne fait que des moyennes. Et de toute façon, on ne peut prévoir que des moyennes et que des tendances.
Oui, c'est que des tendances. De toute façon, c'est toujours un échantillon. On n'interroge pas tout le monde, quoi. Et ça, c'est le suffrage qui donne, donne cette information.
Même, de toute façon, le suffrage n'interroge pas tout le monde, par définition.
Non plus.
Eh bien, on va passer au troisième moment de cette demi-heure de Tous Politiques. Et comme à chaque fois, il se trouve que j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce dont on ne parle pas dans ce débat présidentiel.
Le complot.
Fait-il
le complot.
Le complot, voilà. On ne parle pas du... Non, je ne parlerai pas du cabinet noir, ni des écuries d'OGS ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai envie de parler de ce dont on ne parle pas dans ce débat présidentiel submergé par les différentes affaires politico-monétaires. Si François Fillon ou Marine Le Pen nous écoutent, qu'ils se sentent visés. Et aussi submergé par les inextinguibles débats autour, 1, du terrorisme, 2, de la sécurité. Et parlons un peu de ce qui nous concerne au premier plan, ici à l'ENS, et je veux parler d'éducation. On n'en parle qu'à travers le biais soit de l'augmentation ou de la réduction du nombre de fonctionnaires, qui implique au premier plan les professeurs, ou alors de la question de la laïcité ou de la sécurité pour faire des écoles et des lieux d'éducation des sanctuaires ou autres temples laïques et sécuritaires. Mais je me suis posé la question, quels sont les projets éducatifs des différents candidats ? Sans surprise, les programmes de François Fillon et de Marine Le Pen mettent l'accent sur la restauration de l'autorité professorale, qui passerait selon eux par, d'abord, l'instauration du port de l'uniforme à l'école. Et au cas où, si certains se disent que « oh là là, c'était beaucoup mieux avant et qu'il y avait un uniforme », je tiens à rappeler qu'il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française, c'était seulement des blouses et pas des uniformes. Bref, les deux candidats de droite veulent que les élèves de l'école primaire acquièrent en priorité ce qu'on nomme couramment, je cite, « les savoirs fondamentaux », qui sont chez Marine Le Pen le français, l'histoire et le calcul. Et chez François Fillon, je cite, « lecture, calcul, écriture, grande date et grand personnage de l'histoire de la nation, géographie de la France ». On retrouve alors l'idée de restaurer ce qu'on appelle un roman national, très Troisième République, pour refonder l'appartenance patriotique, quitte à s'arranger avec la réalité historique et le travail scientifique des historiens qui apprécieront. Mais la question c'est qui écrira ce roman, ou qui le dictera ? L'Académie française, comme le propose François Fillon, ce qui veut dire Alain Finkielkraut, par exemple.
Valéry Giscard d'Estaing.
Et la question que je pose, c'est et de quel droit ? De quel droit un académicien non-historien irait écrire le roman national ? Bref, et pour ce qui est de l'appellation « savoirs fondamentaux », je ne peux que m'offusquer, on mélange ici ce qui est de l'ordre du fondamental et ce qui n'est en fait que des savoirs dits instrumentaux, c'est-à-dire pratiques, utiles, mais on peut s'en douter, pas du tout fondamental si on considère que l'enseignement scolaire est une éducation, on est dans un ministère de l'éducation nationale et non une instruction pure et simple. Ce qui est fondamental, c'est aussi le développement d'un esprit critique et le sentiment d'appartenance raisonnée à une communauté. Je passe au centre maintenant, quant à Emmanuel Macron. Il veut limiter à 12 élèves par classe en CP et en CE1 en zone d'éducation prioritaire, aussi moderniser le baccalauréat en le centrant sur 4 matières et évaluer le reste en contrôle continu, renforcer l'autonomie des universités. Salut Rémi, l'autonomie des universités, loi Pécresse, etc. Et aussi, proposition assez innovante, ouvrir les bibliothèques le soir et les week-ends. Bref, un programme libéral au sens propre du terme. À gauche maintenant, Benoît Hamon, outre la création de 40 000 postes d'enseignants, veut rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans, voire 2 ans dans les quartiers en difficulté et dans les départements d'outre-mer. Il veut aussi limiter le nombre d'élèves par classe à 25 en CP, CE1 et CE2 et permettre aux enseignants de bénéficier de 3, 5 ou 10 jours de formation par an. Le programme de Mélenchon, dévastateur pour la France si on en croit le Figaro, veut mettre le paquet pour éradiquer l'illettrisme et miser sur l'alphabétisation des non-francophones. Jean-Luc Mélenchon veut assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, et notamment en rendant gratuites les cantines scolaires, les transports et les activités périscolaires, et aussi les manuels scolaires. Il veut, au-delà de Benoît Hamon, il veut recruter 60 000 enseignants, revaloriser le salaire des enseignants et abroger la réforme du collège, comme beaucoup d'autres candidats. Mélenchon veut aussi étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, et non pas de 6 à 16 comme c'est le cas aujourd'hui, instaurer une nouvelle carte scolaire pour renforcer la mixité sociale, etc. Et c'est aussi un des rares candidats à avoir un programme très détaillé pour l'enseignement supérieur, notamment pour la création d'universités populaires, pour renouer le lien entre chercheurs, universitaires et la population. Mais si je vous parle d'éducation, c'est aussi parce que l'actualité y oblige. En effet, depuis fin mars, des professeurs stagiaires de l'École supérieure de professorat et d'éducation de Grenoble sont en grève. C'est aussi le cas à Versailles, il y a aussi des mouvements à Lyon. Le mouvement est soutenu par l'intersyndicale CGT Éducation, FO, la SNALC, le SNES FSU et Sud Éducation. Et j'entends déjà certains qui ricanent, non, les stagiaires ne sont pas en grève pour se préparer à leur futur métier de gréviste intermittent, mais bien pour protester contre les conditions de travail et de formation dispensées dans ces ESPE, créées en 2013. Car une fois le concours d'enseignant en poche, le lauréat doit batailler avec un triple statut, étudiant en formation pédagogique, professeur en poste devant des élèves à mi-temps et professeur en formation, dirigé et évalué par un tuteur. Et ces trois statuts cumulent bien sûr la charge de travail correspondante avec des formations à l'université particulièrement lourdes et parfois inadaptées qui mettent les futurs professeurs dans une situation d'évaluation constante. Mais encore une fois, on oblitère complètement la question de l'enseignement, de la formation des élèves comme celle des professeurs ou futurs professeurs, certains politiques considérant d'un mépris à peine voilé ce qui demeure à mon sens un pilier de notre société. Et j'arrête avec mon laïus pro-éducation, pour me tourner tout de suite vers Rémi, dont je meurs d'envie de connaître l'humeur aujourd'hui. Humeur un peu fatiguée, peut-être.
Eh bien, exactement, figure-toi, mais on va y venir.
Le billet de Rémi, dans tous politiques,
le billet de Rémi, sur transistor. Dans tous politiques, sur transistor.
On me dit que l'honneur de Marine Le Pen s'est glissé dans la salle. Non, tu peux rester. Hein. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que l'État français, que la nation avec une grande haine, n'a pas été sans responsabilité dans la rafle du Veldiv, savez-vous ? Enfin, Marine, t'as un peu de la merde dans les yeux, comme dit le peuple. Bah, avec ton cyclope de papa, ça se comprenait un peu, mais là... Ouais, attendez, je vous la fais en un peu plus nerveux. Hé, hey, la blonde, oui, toi avec la mâchoire de pelleteuse mécanique et la voix qu'annonce le cancer, là, mais t'as pas un peu pété un câble ? Tu dis à la télé « je suis une mère de famille », mais c'est plutôt « je parle une merde facile », non ? Et les États-Unis sont pas responsables d'Hiroshima, peut-être. La nature n'est pas responsable de ton papa. Émile Louis n'est pas responsable de la mauvaise mine des enfants qu'on retrouvait dans les bois. Dieu n'est pas responsable du reste. Les curés sont pas responsables de Dieu. Le système scolaire n'est pas responsable de Nadine Morano. Je ne suis pas responsable de moi-même. Bon, je m'emporte un peu, mais... La seule fois qu'elle a failli cramer, c'est ce matin quand un pétard mouillé a noirci le paillasson de son QG de campagne. Alors, hein. Non, le jour où ils viendront chercher tous les connards sur leur voilier breton et où ils les foutront dans des wagons à bestiaux pour en finir avec l'extrême droite, eh ben, tu serviras à chauffer la locomotive. Enfin, je m'échauffe, pardon. À propos de gaz, parlons Syrie. Justement, je m'interrogeais sur Émile Louis, mais là, on a enfin trouvé le boss de fin de niveau. Hein. Bachar. La photo a fait le tour du monde, la pâle beauté christique de ces visages assoupis, calmes, doux, leur peau satinée à peine caressée par la lumière brutale d'un flash pourtant adouci par leur galbe délicat, leurs pommettes légèrement saillantes à cause des 17 repas sautés la semaine dernière, leurs sourcils noirs voilant leur regard innocent d'une moire pudique. Il n'y a pas à dire, ça me secoue. Hein. Bachar, tu as permis ça. C'est cool, mais était-ce nécessaire même au nom de l'art ? Ah non, c'est vrai, au nom du pouvoir, de tes potes, au nom de la viande. Tes potes, les potes de tes potes, etc. Hein. Bachar, Poutine, Poutine, Le Pen, hop là. Mieux, Bachar, Jean Lassalle. Non, on s'en fout, les chambernés sont couverts par le silence des enfants qui ne toussent plus, hein, fallait utiliser Advil, et le bruit des bombes qui imposent la vision de l'architecture d'un nouveau malade à moustache. Tu es les moustachus, tiens, Gunther, Francis Cabrel. Ouais non, pas José Bové, il défend le capitalisme et nique les moutons. Non, l'inverse. Oula, Sofres et RTF, il est 16h50, Dieu fatigue. Plutôt, non, on est en 2017, je fatigue. On gaze toujours les gosses, et pas ceux qui me font chier dans le métro. On n'assume pas d'avoir gazé des gosses, même s'ils avaient le nez crochu et les doigts recourbés. On est encore un petit peu gêné quand je parle de nez crochu et de doigts recourbés, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a encore des ordures fin de race qui y croient vraiment et qui sont faits des mêmes viandes que nous, même si chez eux, l'intestin a été branché dans la tête. On est en 2017 et les leaders novateurs s'appellent Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les gens croient encore aux urnes. Bref, notre voisin arrache les yeux à sa fille et on monte le son de la télé pour ne pas l'entendre. Non sans avoir regardé par la fenêtre pendant 20 secondes d'un air horrifié et en avoir profité pour prendre une petite photo souvenir. Chers auditeurs, le monde n'est pas qu'un désastre, je vous le rappelle, il est aussi un miroir.
Merci Rémi, et c'est maintenant la fin de cette émission en direct. Et cette édition en direct de Tous Politiques, j'espère que nous avons éclairé ou au moins amusé pendant cette demi-heure. En attendant, restez informés, débattez, assumez d'être des citoyens, car si la politique n'est pas tout, nous sommes tous politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton, veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.
Journée de la radio.
Merci Mathias pour ce numéro de Tous Politiques consacré à la campagne présidentielle. On retrouve, il est 17h et on retrouve tout de suite Robin pour le Flash Info.
Merci. Un mot de l'actualité française. La préfecture du Nord a annoncé ce jeudi la disponibilité de 500 places dans les centres d'accueil et d'orientation de France pour les migrants sans hébergement durable depuis l'incendie lundi soir du camp de Grande-Synthe. Pour les Hauts-de-France, la préfète du Nord, pardon, a également indiqué que 160 places supplémentaires seront mobilisées. Un mot d'actualité culturelle, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, et son président Pierre Lescure présentaient aujourd'hui les films retenus sur la croisette. Pour cette 70e édition, on pourra retrouver entre autres les cinéastes Michael Haneke, Jacques Doyon et Sofia Coppola. Pierre Lescure a ponctué cette présentation des mots suivants. Ce festival, on espère bien qu'il soit une respiration qui va permettre de ne parler que de cinéma. En effet, celui-ci se déroulera juste après l'élection présidentielle française. Un point d'actualité internationale maintenant. Bachar al-Assad a mis en cause aujourd'hui les pays occidentaux pour avoir monté l'attaque chimique présumée à Khan Sheikhoun, à l'origine de fortes tensions entre Washington et Moscou depuis quelques jours. Dans un entretien exclusif accordé à l'AFP hier, le président syrien a affirmé que son armée n'était pas responsable de l'attaque présumée et que selon lui, il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%. Les autorités allemandes ont finalement mis hors de cause leur principal suspect pour l'attentat de Dortmund, qui ciblait le club de foot éponyme mardi dernier. L'arrestation d'un jeune Irakien de 26 ans qui était suspecté d'appartenir à la mouvance de Daesh avait donné crédit à la piste de l'attentat islamiste, qui est désormais remis en cause. Un point d'actualité économique maintenant. Hier, le Financial Times a publié une interview de Donald Trump qui a affolé les marchés financiers américains. En effet, le président réaffirmait sa volonté de lutte contre Wall Street, notamment parce qu'il appelle une politique de taux d'intérêt bas. Or, cette fixation de taux d'intérêt est du ressort de la Banque fédérale américaine, dont l'indépendance est inscrite dans la Constitution. La présidente de la Fed a donc jugé l'indépendance de son institution menacée. Une tension subséquente s'est fait ressentir aujourd'hui sur les marchés financiers, avec une méfiance grandissante sur les titres américains, ce qui est peut-être une bonne nouvelle pour l'Europe, dont le marché d'obligations semble aujourd'hui apparaître comme un refuge pour des traders inquiets.
Merci Robin pour ce flash info. Tout de suite, un numéro inédit de « Il y a une vie après normale ».